Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, les autorités ont annoncé hier soir que plus de 5000 tonnes de produits chimiques avaient été détruits. De son côté, l'Assemblée nationale a décidé ce matin de créer une mission d'information pour faire toute la lumière sur cette catastrophe dont les conséquences continuent d'inquiéter habitants et élus en dépit des propos rassurants du gouvernement.
À l'appel d'une large intersyndicale, les policiers vont battre le pavé aujourd'hui à Paris pour une marche de la colère.
Oui, une nouvelle grande mobilisation qui vient souligner la crise durable de l'institution.
L'impact sur l'économie du remplacement de l'ISF par l'impôt sur la fortune immobilière est encore difficile à mesurer.
C'est ce qui ressort d'un rapport effectivement publié hier, lequel révèle toutefois combien la réforme a fortement réduit l'impôt payé par les contribuables concernés. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson doit présenter cet après-midi devant le Parti conservateur son offre finale sur la sortie de l'UE. Une proposition présentée comme à prendre ou à laisser pour éviter un Brexit sans accord à la fin du mois. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes aujourd'hui, Patrick Bloch, maire adjoint de Paris, à l'occasion des 20 ans du PAX. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
L'Afrique ne souffre pas d'un défaut d'histoire, ce sont nos sociétés contemporaines qui souffrent d'un déni de l'historicité des sociétés africaines. Pourquoi ce déni? François-Xavier Fauvel vient nous en parler. Il est professeur au Collège de France et il est surtout le tout nouveau titulaire de la chaire permanente d'histoire et d'archéologie des mondes africains. Demain soir, il y prononcera sa leçon inaugurale.
Merci et à tout à l'heure. À l'ère du soupçon permanent et face à l'impératif absolu de devoir communiquer, comment trouver le bon équilibre entre d'un côté le besoin de ne pas céder à la panique au risque de ne pas apparaître comme suffisamment transparent et puis de l'autre l'obligation d'accélérer la diffusion d'analyses pour permettre d'évaluer avec précision le danger potentiel de la situation. Hier soir, près d'une semaine après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen et face au débat parmi les riverains comme dans la classe politique sur la nécessaire transparence due à une population inquiète. La liste et la quantité des produits qui ont brûlé sur ce site industriel classé Seveso ont été rendus publics par la préfecture de Seine-Maritime. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Alors, faute de communication ou vérité entière et transparente, quoi qu'il en soit, et après qu'on a appris hier donc que plus de 5000 tonnes de produits chimiques sont partis en fumée, la gestion de crise du gouvernement, Pierre, continue à être montrée du doigt.
Et voilà donc aujourd'hui le gouvernement confronté à une double crise, une crise sanitaire doublée d'une crise de confiance. Et cela s'entend lors des prises de parole quotidienne. Depuis l'incendie jeudi dernier, les ministres chargés d'expliquer et de rassurer découvrent au fur et à mesure l'ampleur du sinistre et ses conséquences, ce qui entraîne dans la communication des hésitations et parfois même des formulations inquiétantes. Exemple, ce matin avec Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, elle était invitée de France Inter.
Il y a des choses que je ne sais pas, c'est-à-dire que l'INERIS, l'agence responsable des risques, doit me dire à quoi on peut s'attendre quand une usine avec plus de 300 produits toxiques brûle. Et ça, l'État aujourd'hui ne peut pas répondre à cette question.
Et dans ce même entretien, la ministre énumère la liste des produits toxiques dangereux qui ont brûlé des hydrocarbures polycycliques. Et face à la complexité du dossier, la ministre tente de rassurer, mais l'exercice, vous allez l'entendre, est difficile. Ou comment employer les bons mots sans disposer de toutes les bonnes informations.
Aujourd'hui, l'air est revenu, et il est d'ailleurs depuis le début, il est respirable. C'est-à-dire que l'air de la fumée, pour les éléments que nous avons aujourd'hui, est un air de combustion. C'est-à-dire que c'est une fumée de carbone comme un feu de cheminée. Nous n'avons pas trouvé dans cette fumée les polluants les plus à risque et que nous avons recherché en premier.
Alors, et dans ce difficile équilibre de communication, le gouvernement se retourne vers l'exploitant du site Lubrizol. Il lui demande de faire toute la lumière et d'assumer toutes ses responsabilités. Un message qui a été martelé ce matin sur toutes les antennes par les membres du gouvernement, comme Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique sur France Info.
On a mis une pression très forte sur l'industriel, comme on le fait tous ces derniers jours, pour qu'il sécurise son site, pour qu'il le dépollue et qu'il nous donne la liste précisément des produits qui étaient stockés dans l'entrepôt.
Dès qu'on a pu, dites-vous, ça veut dire très clairement que vous ne l'aviez pas jeudi dernier au moment de l'incendie.
Ça veut dire que la liste, on a la liste de tous les produits.
Ensuite, vous ne l'avez pas gardée sous le coude.
Je peux vous assurer qu'on a mis une pression très forte sur l'industriel pour avoir cette liste. Et dès qu'on l'a eue, on l'a rendue publique. C'est ce que le préfet a fait.
Et vous l'avez eue hier, donc.
Absolument.
Et voilà donc le gouvernement confronté à une mobilisation citoyenne, à une pression médiatique et politique, d'autant plus délicate qu'elle est soumise au temps long des enquêtes. Et dans un signe supplémentaire de transparence, aujourd'hui, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est déclarée favorable à une enquête parlementaire, ainsi que le réclame un certain nombre de députés.
Merci Pierre Neveu. Alors si la suspicion l'emporte, parfois sur toute autre considération, le mieux c'est encore sans doute de produire des évaluations fiables, et c'est le cas également s'agissant des mesures gouvernementales. Récemment, c'est ainsi par exemple qu'une étude de l'UNEDIC nous a révélé combien la réforme de l'assurance chômage aurait un impact négatif lors de la première année de son application. Idem avec le rapport accablant de la Cour des comptes sur la réforme territoriale, lequel établit que la réduction de 22 à 13 région métropolitaine n'a pas permis de réaliser les économies promises. Et depuis hier, la question se pose donc cette fois-ci s'agissant de la suppression de l'ISF et l'instauration d'un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital. Selon un rapport publié par le comité indépendant chargé de l'évaluation de ces deux mesures décidées par Emmanuel Macron au début de son quinquennat, il semblerait pour l'instant du moins qu'elle n'ait pas produit d'effet visible sur l'emploi et la croissance en France, même si, prévient aussitôt le comité, il est encore trop tôt pour produire une évaluation complète. De sorte que, selon que l'on soit pour ou contre ces deux mesures, eh bien, chacun devrait trouver aujourd'hui dans ce rapport les arguments qui lui conviennent le mieux. Les explications d'Anne-Laure Jumet.
Les quelques données livrées par ce rapport sont aujourd'hui surtout qualitatives. Les experts ont en effet sondé une centaine de gestionnaires de patrimoine et il en ressort que le surplus de revenus a pu être réinvesti dans des assurances-vie, voire dans des dépenses courantes pour se faire plaisir. Pour certains, cela profite donc à la croissance, quand d'autres y verront une incapacité à financer les entreprises. Or, c'est précisément ce qu'avait invoqué le gouvernement lorsqu'il avait justifié la réforme de l'ISF. Les fonds ainsi dégagés devaient profiter aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire. Autre donnée qui fait réagir, et que l'on peut lire dans ce rapport rendu par ce comité d'évaluation, 5% des foyers aux revenus les plus élevés perçoivent 57% des gains dus à la réforme. De quoi renforcer les arguments de ceux qui disent qu'Emmanuel Macron a fait un cadeau aux très riches. Dans le même temps, d'autres s'arrêteront plutôt sur l'idée que la réforme n'a pas pénalisé les petits propriétaires immobiliers. Contrairement à ce qu'avait dénoncé la droite en 2017, l'écrasante majorité des assujettis à l'ISF du premier décile ne sont ainsi plus contribuables à l'impôt sur la fortune immobilière. Autre indication, en 2017, le nombre de départs de France pour raison fiscale a baissé à moins de 400 personnes en 2017 contre 900 en 2013. Faut-il y voir un lien ? Ça n'est aujourd'hui que présomption, selon le comité d'évaluation, ce qui laisse là aussi matière à interprétation. En tout cas, dès hier, Bercy a salué un rapport qui va plutôt, selon lui, dans le bon sens. De quoi conforter l'idée, qui est celle du ministère de l'économie, de ne pas remettre en cause cette réforme. On attend quand même les conclusions la semaine prochaine d'un autre rapport présenté par le Sénat, qui pourrait être un peu plus critique.
Même si ces dernières années, les policiers ont déjà manifesté à plusieurs reprises pour leurs conditions de travail, une meilleure reconnaissance, mais aussi pour s'élever contre un laxisme supposé de la justice, la mobilisation d'aujourd'hui n'en demeure pas moins inédite. Depuis près de 20 ans, sur fond de malaise de l'institution, de hausse des suicides et de réforme des retraites, les représentants des forces de l'ordre vont battre le pavé à Paris pour une marche de la colère à l'appel d'une large intersyndicale. En l'occurrence, les organisations réussies, l'Union sacrée, tout corps et tout grade confondus. Au total, plus de 10 000 manifestants sont attendus dans le cortège qui vient de s'élancer de la place de la Bastille pour rejoindre celle de la République. Je vous propose d'écouter Grégory Joron, secrétaire général délégué du syndicat Unité SGPFO. Il exprime le ras-le-bol général de sa profession au micro d'Ariane Griessel.
Ça va de la voiture qui a 250 000 km à tout simplement une imprimante qui marche pas ou à des collègues qui sont même obligés dans certains commissariats d'amener leur ramette de papier pour pouvoir imprimer leur procédure. C'est une question de budget, c'est une question d'utilisation des moyens, une question d'équilibre, mais aussi au-delà de ça, une question de reconnaissance. Il n'y a pas que l'argent non plus. Les policiers, ils ont aussi besoin de reconnaissance face aux agressions qui sont en constante augmentation, que ce soit en service ou hors service malheureusement. Et on a besoin de preuves que notre ministère nous soutient. Aujourd'hui, tout ça, c'est pas assez palpable. Donc la marge de la colère, c'est pour exprimer tout ça et espérer qu'on sera entendu rapidement.
Voilà, Grégory Joron, secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP-FO. Il répondait à Ariane Griessel. Comédien, humoriste, réalisateur, chanteur, écrivain, au total quelques 108 personnalités françaises associées à des représentants de patients publient dans les colonnes du Parisien ce matin une lettre ouverte à Emmanuel Macron dans laquelle il réclame un plan d'urgence pour sauver l'hôpital. Les signataires qui ont été confrontés au monde hospitalier demandent tout à la fois l'ouverture de lits, l'embauche du personnel nécessaire ainsi que la revalorisation des salaires des soignants hospitaliers. Après que Aiglazur a définitivement cessé son activité vendredi dernier, faute de repreneurs, c'est au tour de XL Airways, actuellement en redressement judiciaire, d'être fixé sur son sort aujourd'hui, soit une éventuelle reprise, soit la liquidation pure et simple. Seule certitude, ces défaillances en série de compagnies à bas coût illustrent les fragilités aujourd'hui d'un secteur où la guerre des prix fait tomber les plus vulnérables. En 18 mois, ce sont pas moins d'une dizaine de compagnies qui ont déjà baissé le rideau en Europe. À moins d'un mois maintenant de la date officielle prévue pour le départ du Royaume-Uni de l'UE, c'est peu de dire que le temps presse pour trouver un accord de divorce. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, à l'occasion de son discours de clôture du congrès du Parti conservateur, le Brexiteur en chef Boris Johnson devrait présenter cet après-midi de nouvelles propositions à l'intention de Bruxelles. Sauf que, davantage que de nouvelles hypothèses de travail, il s'agirait là plutôt d'une offre finale, comprenez, définitive en forme d'ultimatum, dès lors pas sûr que les Européens apprécieront cette dernière sommation, sans compter que certaines de ces propositions ont d'ores et déjà fuité dans la presse et qu'a priori elles ont relativement peu de chances de séduire les dirigeants de l'UE. Les précisions à Londres de notre correspondant Antoine Gignot.
C'est un compromis juste et raisonnable, explique le porte-parole du Premier ministre, et c'est à prendre ou à laisser. Si Bruxelles rejette le plan, pas question de reporter le Brexit au-delà du 31 octobre. Cette nouvelle proposition permet donc d'abord à Boris Johnson d'afficher face aux militants conservateurs sa bonne volonté. L'objectif n'a pas changé, il s'agit d'éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord, censée quitter l'Union européenne, et la République d'Irlande, qui va continuer d'en faire partie. Le gouvernement britannique propose de laisser le nord de l'île aligné sur les réglementations européennes jusqu'en 2025. Belfast et sa région auraient donc un statut légèrement différent du reste du pays. Les produits seraient examinés par les douaniers en mer d'Irlande, avec en parallèle un contrôle des voyageurs grâce à des moyens high-tech qui restent à définir. Des solutions très proches de celles qui ont déjà été évoquées l'an dernier et rejetées l'une après l'autre par les unionistes irlandais et les responsables européens.
Son audition pour corruption, fraude et abus de confiance était attendue de longue date et pour cause. Non seulement cette journée de mercredi pourrait s'avérer cruciale pour l'avenir de Benjamin Netanyahou, mais elle s'annonce par ailleurs déterminante pour Israël, plongé dans l'impasse politique depuis les élections législatives du 17 septembre dernier. Aujourd'hui, l'homme qui règne sur l'État hébreu depuis une décennie sans discontinuer est donc appelé à comparaître devant la justice, même si en l'occurrence il ne sera probablement pas présent à l'audition, ou dit autrement, Benjamin Netanyahou, qui clame son innocence et dénonce sans relâche une chasse aux sorcières, sera uniquement représenté par ses avocats. Alors initialement, sans doute, celui qui cherche par tous les moyens à rester en poste espérait-il consacrer surtout sa journée au pourparler, toujours en cours sur la formation d'un gouvernement d'union. Et de fait, les négociateurs du Likoud et du parti bleu-blanc avaient prévu de se rencontrer. La rencontre devait même être suivie d'un tête-à-tête entre les deux rivaux, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, sauf que hier soir, le parti centriste a décidé d'annuler la dite rencontre, estimant que les conditions préalables essentielles au dialogue ne sont pas réunies. En clair, le parti de Benny Gantz estime que Benjamin Netanyahou ne peut diriger un gouvernement tant que ses affaires avec la justice ne sont pas réglées. Lui est aujourd'hui menacé par une procédure de destitution. Hier soir, tempêtant sur son réseau favori Twitter, Donald Trump a dénoncé rien de moins qu'un coup d'État visant à prendre le pouvoir du peuple. Et puis signe également de la fébrilité ambiante manifestement à Washington, le secrétaire d'État Mike Pompeo a lui écrit hier une lettre incendiaire aux démocrates de la Chambre des représentants dans laquelle il décrit la demande de déposition de 5 fonctionnaires ayant joué un rôle dans les relations des États-Unis avec l'Ukraine comme, je cite, une tentative d'intimidation et de harcèlement. au chapitre toujours de ces politiques qui exercent déjà les plus hautes fonctions ou y prétendent, même si plane au-dessus de leur tête la menace d'une éviction définitive. En Tunisie, le candidat qualifié pour le deuxième tour de la présidentielle, Nabil Karoui, a passé une nouvelle nuit en prison. Hier, la justice a rejeté une nouvelle demande de libération du magnat des médias poursuivi pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Un maintien en détention que déplorent plusieurs personnalités politiques, dont son adversaire Kaïs Saïed. Et ce, alors que la campagne pour le deuxième tour prévu le 13 octobre doit démarrer dans les tout prochains jours. De quoi évidemment jeter une ombre sur le processus électoral et fragiliser un peu plus encore la démocratie, sans compter que des élections législatives, cette fois-ci susceptibles de redessiner le paysage politique du pays, sont prévues dimanche. Le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman, appelé à devenir roi malgré le sang qu'il a sur les mains, aura-t-il un jour à rendre des comptes sur le meurtre de Jamal Khashoggi? Quoi qu'il en soit, cela fait un an jour pour jour que le journaliste saoudien est entré dans le consulat de son pays à Istanbul pour ne plus en ressortir vivant. Depuis le début de cette sordide affaire, les autorités turques dénoncent un crime perpétré prémédité et pointent un doigt accusateur vers celui qui dirige aujourd'hui le royaume wahhabite. En vain, de leur côté, les proches et amis du journaliste ont prévu de se retrouver aujourd'hui devant le consulat saoudien pour honorer sa mémoire et réclamer justice. Un procès devrait d'ailleurs bientôt s'ouvrir en Turquie. C'est une correspondance à Istanbul signée Anne Andlauer.
L'enquête du parquet d'Istanbul et l'acte d'accusation que ce dernier devrait publier d'ici quelques semaines sont les seuls espoirs de justice concrets auxquels s'accrochent pour l'instant les proches de Jamal Khashoggi. Ils donneront lieu dans les prochains mois à l'ouverture d'un procès en Turquie. Ankara réclame toujours l'extradition de 18 suspects saoudiens, ce que Riyad refuse. Car en Arabie Saoudite, un procès s'est ouvert au début de l'année, mais il ne vise que 11 personnes et se déroule à huis clos. Craignant une parodie de justice, les ONG de défense des droits de l'homme réclament une enquête pénale internationale, comme le préconise Agnès Kalama, rapporteure spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires. Pour l'heure, le secrétaire général de l'ONU fait la sourde oreille. Le parquet d'Istanbul estime pour sa part avoir fait la lumière sur l'affaire, principalement grâce aux écoutes réalisées par la Turquie dans l'enceinte du consulat saoudien au moment de l'assassinat et dans les jours précédents. L'acte d'accusation devrait notamment détailler l'arrivée par avion privé de 15 responsables saoudiens la veille du crime, l'arrestation de Jamal Khashoggi dès son entrée dans le consulat, sa mort par étouffement et le démembrement du corps. Reste cependant une question à laquelle l'enquête turque n'a pas encore permis de répondre. Où se trouvent les restes de Jamal Khashoggi ?
Tentative d'intimidation ou pas, 14 organisations humanitaires et de défense des droits humains dénoncent la convocation ce matin par la DGSI du représentant d'une ONG, Acer, laquelle dénonce l'emploi d'armes françaises au Yémen. Lors de récents référés devant la justice administrative visant à obtenir la suspension des exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite engagée militairement au Yémen, l'association Action Sécurité Éthique Républicaine a utilisé des documents confidentiels défense dévoilés en avril dernier par le collectif Disclose, des documents qui démontraient que Paris était au courant que des armes françaises étaient utilisées au Yémen. Trois journalistes de Disclose et de Radio France avaient par la suite été convoqués par la DGSI pour s'expliquer sur la publication de ces notes de la direction de renseignement militaire. Et ce matin, donc, la première ONG à avoir déposé une plainte contre l'État français pour vente d'armes illégales a été à son tour convoquée par les services de renseignement français. Je vous propose d'écouter son président, Benoît Murakiol. Il répond à Olivier Poujade.
On est très très clair et on se sent très légitime dans notre combat au niveau juridictionnel. On est la première ONG qui avons porté cette question des ventes d'armes devant un tribunal, des ventes illégales de la France devant un tribunal. On est solidaire du peuple yéménite, on est dans notre engagement sur le respect des droits de l'homme. On n'a absolument rien à se reprocher, au contraire. C'est une façon toujours d'entraver le travail que nous faisons et de dire aux autres ONG, si vous voulez faire la même chose, vous risquez aussi ce même type d'ennui. Ce sont des techniques malheureusement connues des États ou totalitaires ou dictatoriaux, et c'est vrai que c'est une vraie rupture dans la culture de la France, ce qui est assez extraordinaire pour un pays comme la France de se retrouver aux côtés de pratiques dignes de l'Égypte, de la Russie, de l'Arabie Saoudite. Je pense que le gouvernement est tellement empêtré dans ses ventes d'armes qu'il ne sait plus quoi faire d'autre que d'en arriver à cette intimidation.
Voilà, Benoît Murakiol, président de l'ONG Action Sécurité Éthique Républicaine, il répondait à Olivier Poujade. L'invité de la rédaction aujourd'hui à l'occasion des 20 ans du Pax, Patrick Bloch, maire adjoint de Paris, conseiller métropolitain et député honoraire. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Antoine Maret. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors vous avez été monsieur Bloch le rapporteur de la proposition de loi sur le Pax, dont vous êtes vous-même le co-auteur avec Jean-Pierre Michel, loi votée donc en 1999. Et vous publiez ces jours-ci un livre intitulé « L'incroyable histoire du Pax » aux éditions Kerhaut. Pourquoi avez-vous souhaité retracer le parcours du combattant qu'a été donc l'adoption de ce Pax ?
Tout simplement parce que ce récit n'avait jamais été fait. Et nous avons considéré que c'était un beau récit, surtout en notre époque contemporaine, rappeler que ça a été une demande de la société, dont l'urgence s'est manifestée avec l'épidémie du sida, et qu'il y a eu à cette époque des relais politiques et parlementaires pour faire que cette revendication militante devienne à l'arrivée une loi de la République.
Et c'est un véritable parcours du combattant, effectivement, que vous décrivez. Ça s'appelle d'abord le CUC, ensuite le CUX et ensuite le PAX. Quel était le but de ce projet au départ, en fait?
Ce projet visait à ce que, enfin, dans le code civil, on reconnaisse les couples homosexuels. Et ils n'avaient aucune place, ils n'existaient pas, ils étaient niés. Et de ce fait, nous nous sommes beaucoup battus avec Jean-Pierre Michel, d'abord pour que le Pax figure dans la partie du code civil consacrée aux droits des personnes, là où certains voulaient le mettre dans le droit des contrats. Et c'est la raison pour laquelle le contrat d'union civile est devenu le pacte civil. Et puis de solidarité, parce que l'épidémie du sida avait révélé des drames extrêmement douloureux où il y avait la nécessité, à travers cette reconnaissance, de pouvoir soit permettre donc à une personne homosexuelle d'être ayant droit en termes de couverture maladie, et ou tout simplement de pouvoir bénéficier du transfert d'un bail à logement.
En 1995, lors de la présidentielle, il n'y a qu'une candidate, c'est une femme qui vous soutient ouvertement, c'est Dominique Voynet, chez Les Verts. Pour convaincre le PS puis le PCF, ça va mettre un peu plus de temps.
Ça va mettre un peu plus de temps, on le dit avec beaucoup d'honnêteté, même si nous sommes tous les trois militants socialistes, et nous rendons à Dominique Voynet l'hommage qu'elle mérite d'avoir su se mobiliser comme candidate, avec évidemment son parti, pour effectivement faire sienne cette revendication. Le PS bougera juste après, en 1996, et Lionel Jospin, lorsqu'il sera candidat aux élections législatives, il deviendra évidemment Premier ministre, donc a dans son programme le Pax.
Alors la gauche arrive au pouvoir, votre opportunité c'est cette dissolution ratée en 97, gauche plurielle, et pourtant une partie de la majorité est timorée sur cette question. Certains veulent ouvrir le Pax aux fratries, comme pour en atténuer la dimension homosexuelle. Et puis il y a cette fameuse séance à l'Assemblée du 9 octobre 98, les députés de la gauche plurielle qui sont trop peu nombreux, et pour la deuxième fois dans l'histoire de la 5e, la majorité parlementaire est mise en minorité sur une motion de procédure. Pourquoi de telles réticences à gauche ?
Parce que la gauche, voilà, et si j'ose dire à l'image de la société, il y avait des réticences à la société, elles se sont retrouvées notamment au Parlement ou dans les organisations politiques. Je dirais que tout ça est très naturel et très normal. Il a fallu vaincre effectivement ces réticences, qui étaient souvent faites d'ailleurs de beaucoup d'indifférence. Moi j'ai été très frappé lorsqu'il y a eu ce malheureux vote du 9 octobre, où nous avons été battu, puisque la discussion parlementaire du Pax, comme vous le savez, a mal commencé, du fait que beaucoup de députés qui ne se sont pas déplacés ce jour-là, c'était un vendredi matin, peut-être à leur décharge, et les députés sont plutôt dans leur circonscription le vendredi matin, étaient persuadés qu'ils n'avaient aucune personne homosexuelle dans leur circonscription, pour peu qu'ils représentent des territoires ruraux. Et puis à l'époque, leur téléphone, leur fax, puisque évidemment les mails n'existaient pas, leur ont montré que, ah, découverte, il y avait des couples homosexuels qui vivaient dans la circonscription.
Alors, la gauche timorée, la droite bien sûr qui s'oppose frontalement au Pax. En 95, le garde des Sceaux Jacques Toubon invoque l'ordre public. Bernadette Chirac dans le Figaro magazine craint une banalisation du couple homosexuel. Nicolas Sarkozy explique que la famille c'est un homme, une femme, des enfants ou bien un homme et une femme. Et puis il y a l'Église qui prend le relais, les évêques de France qui estiment que cette loi est inutile et dangereuse. Et on assiste à une fracture très française, hein, sur ce sujet entre la gauche et la droite.
Absolument, mais c'est une fracture qu'on avait connue en 1967 quand Lucien Neuwirth, puisque le PAC c'est une proposition de loi comme celle qu'avait portée Lucien Neuwirth sur la contraception, on l'a retrouvée en 75 au moment d'IVG, au moment du PAC en 98-99, on l'a retrouvée lors du mariage pour tous en 2013. Oui, il y a une fracture entre progressistes et conservateurs sur ces questions et,
alors, comment vous
et les oppositions étaient nombreuses.
Comment vous expliquez ça? Parce que dans d'autres pays, il y a par exemple il y a des pays très catholiques qui ont adopté le mariage homosexuel ensuite sans trop de difficultés, y compris des pays à majorité de droite qui ont adopté le mariage homosexuel. Et en France, pour le mariage homosexuel et le Pax, la droite et les catholiques qui manifestent leur hostilité de façon très forte.
Réponse en hier... quelques mots, s'il vous plaît.
Pardon ?
Une réponse en quelques mots.
Oui, hier, c'était le 1er octobre 2019, on commémorait les 30 ans du premier partenariat civil entre personnes de même sexe au Danemark. Mais à l'époque, au Danemark, ça ne concernait que les couples homo. Or, ce qui a été le plus révolutionnaire finalement dans le Pax, c'est qu'on ouvre, dans une tradition très républicaine, le Pax aux couples homo et aux couples hétéros. D'ailleurs, c'est les couples hétéros qui en assurent le succès statistique aujourd'hui. Et c'est ce qui a le plus dérangé nos opposants, parce que quelque part, on mélangeait les torchons et les serviettes, et on l'a vu ultérieurement avec l'ouverture à tous les couples du mariage pour tous.
Merci Patrick Bloch,
maire adjoint
de Paris, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage publié aux éditions Kéro, L'incroyable histoire du Pax. Et merci également à Antoine Maret. On termine avec un mot de météo, le retour à un temps plus calme cet après-midi. Le ciel se partage entre nuages et éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 14 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.